Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. C'est moi qui vais animer avec plaisir cette rencontre avec Olivier Truc. Je rappelle juste que... Alors, vous êtes né dans la région, vous êtes né à Dax.
Oui.
Vous êtes journaliste et plus spécifiquement installé à Stockholm depuis 1994, si mes informations sont bonnes. Vous êtes journaliste au Monde, notamment, et principalement même.
Collaborateur.
Juste. Et on va parler aujourd'hui de votre quatrième roman, le premier étant Le Dernier Lapon, paru en 2012. suivi du Détroit du Loup en 2014 et de la Montagne Rouge en 2016. Tous très bien, dit-on dans
encore,
le public.
Encore.
Et donc ce quatrième roman s'appelle Le Cartographe des Indes boréales. Il se déroule au XVIIe siècle, de 1628 à 1693, ça fait une soixantaine d'années.
65
ans. Pendant lesquels on suit un personnage qui s'appelle Isco d'Etcheverry, qu'on rencontre, si j'ose dire, jeune homme à 13 ans, alors qu'il est à Stockholm. Isco, il a grandi à Saint-Jean-de-Luz, il veut devenir chasseur à la baleine, comme son père, Pasquale. Mais quand le livre commence, il est à Stockholm, il assiste au naufrage d'un navire magnifique qui s'appelle le Vasa, qui est censé, de par sa magnificence, incarner aussi le pouvoir royal. Dans un mouvement de panique générale, il se passe pas mal de choses, notamment l'accouchement d'une femme qui accouche d'un enfant que Isco sauve de la noyade. Alors ça fait partie des nombreux rebondissements qui émaillent ce livre et qui vont détourner finalement Isco de sa vocation première, puisque Isco, il veut devenir chasseur de baleines, comme je le disais. Et le fait est qu'il va devenir espion et cartographe. On voyage beaucoup avec lui, puisque le roman commence donc à Stockholm. Ensuite, on est au Pays Basque. Ensuite, on le suit au Portugal, où il commence à s'initier à la cartographie. Puis à Amsterdam et à nouveau la Suède. Donc c'est un roman, qui voyage à la fois dans le temps et dans l'évolution personnelle aussi, Isco. Et il y a tout de même un ancrage. De mon point de vue, l'ancrage c'est la Laponie, la Suède à une époque particulière, le XVIIe siècle. Et c'est l'époque des premiers contacts entre la couronne suédoise et ce qu'on appelle les Lapons. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à cette époque-là, sachant que vous avez écrit par ailleurs sur les Lapons, les Sami, comme on dit.
En fait, Le Cartographe, c'est un livre dont l'idée est née il y a une dizaine d'années, quand j'étais en train de faire les recherches pour Le Dernier Lapon. Mmh. Donc pour moi, c'est la même histoire, quelque part. C'est la même histoire, c'est la même démarche. Quand je fais le Dernier Lapon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui fait où il y a des histoires de mines, des histoires de mines anciennes, des histoires de cartes déjà, des histoires de cartes sur un tambour, de chamans, un tambour qui raconte une histoire. Une histoire ancienne d'une mine maudite. Et en faisant les recherches à l'époque pour le Dernier Lapon, je découvre l'histoire de la première mine qui a été exploitée en Laponie. En Laponie suédoise. À l'époque, il n'y avait pas de Laponie suédoise, il n'y avait qu'une Laponie, puisqu'il n'y avait pas de frontière définie dans cette région-là, qui était terra incognita. Et cette première mine qui a été exploitée, c'est en 1635, par la volonté des Suédois qui entendent parler de la découverte d'un gisement de minerai d'argent. Et c'est une époque où la Suède est une nation très guerrière. Elle fait beaucoup la guerre. C'est l'époque de la guerre de 30 ans, qui démarre en 1618. Époque où la Suède est alliée de la France, d'ailleurs, contre les Habsbourg. Et cette mine, ce gisement d'argent, les Suédois y voient la possibilité de remplir les caisses, tout simplement, parce qu'ici, ils font beaucoup la guerre, les caisses du royaume sont vides. Donc, ils se disent, ça va être nos Indes à nous. Il y avait les Indes occidentales, les Indes orientales. Ils disent, ça va être nos Indes à nous. On va s'enrichir. Voilà, on va. Et donc, ils envoient une expédition. Et quand je découvre, donc, il y a 10 ans, hein, l'histoire de cette expédition, de cette première mine, je m'enflamme tout de suite, parce que cette expédition, en fait, et cette mine marque deux choses. Ça marque d'abord, comme vous le disiez, c'est la première vraie rencontre entre le peuple suédois et le peuple sami. Parce qu'il y avait déjà quelques petits échanges à l'époque. Il y avait des marchands qui avaient le monopole qui avait pour mission de prélever l'impôt pour le compte de la couronne suédoise. C'était les seuls échanges qu'il y avait. Mais là, on passe à une autre dimension. C'est vraiment la première fois où le peuple sami en tant que tel va rencontrer le peuple sami, les Suédois et sami. Et puis la deuxième chose que ça marque, cette première mine qui va être exploitée à partir de 1535, c'est le début tout simplement de la colonisation de la Laponie par les Suédois. À partir de là, c'est le rouleau compresseur qui va lentement d'abord, puis de plus en plus brutalement, on va envoyer les pasteurs, c'est toute l'histoire, on va en parler sûrement. Mm-hmm. Mais c'est, voilà, c'est à ce double titre que cette histoire. Donc à l'époque, il y a 10 ans, je me dis, un jour, je mettrai en scène, parce que j'étais parti pour l'écriture de mes polars, c'était un projet pour plus tard, mais je commence à fantasmer sur cette expédition, sur cette mine. Et puis, 10 ans plus tard, le projet a grossi, on va dire. Mm-hmm. Mais l'idée, et pour moi, c'était en cohérence totale avec ce que j'étais en train de... avec le cycle romanesque que j'étais en train de mettre sur pied avec le Dernier Lapon, puis le Détroit du Loup, puis la Montagne Rouge. C'était cohérent. C'est la même histoire.
Alors, vous avez utilisé le terme Sami. Peut-être ça mérite une petite clarification. Alors, dès le début de votre livre, hein, vous précisez bien... Vous utilisez le mot Lapon parce que le mot Sami n'existait pas à l'époque. Pourquoi il y a cette nuance sémantique ?
C'est-à-dire que le terme, le mot Sami est le mot qui est utilisé par les Samis eux-mêmes pour se définir. Le mot Lapon était le mot qui était utilisé à l'époque. Hein, de la même façon qu'on dit plus Eskimo aujourd'hui, on dit Inuit. Mmh. C'est la même démarche. Donc c'est dans leur langue, le mot Lapon était péjoratif et considéré aujourd'hui toujours dans les langues nordiques comme étant un terme de nature péjorative. Donc moi, par exemple, quand je parle suédois, j'emploie le terme Sami tout le temps. Et dans le débat public, on utilise le mot Sami. Et les gens qui vont utiliser le mot Lapon en suédois ou en norvégien, c'est qu'ils ont une idée d'abaisser les Samis. Donc c'est toujours utilisé, mais pour discriminer.
C'est une signification particulière, Lapon.
C'est, alors, moi, en l'occurrence, je suis pas spécialiste de ça, mais l'explication que j'ai entendue, c'est que ça veut dire porteur de haillons.
Voilà. D'accord.
Donc c'est vrai que c'est pas très. Mais à l'époque, au XVIIe siècle, dans tous les récits de voyage qu'il y a, c'est le terme Lapon qui est utilisé. Donc dans le livre, j'utilise le mot Lapon uniquement parce que l'utilisation du terme Sami serait anachronique tout simplement.
D'accord. Alors on va revenir sur les relations, on va dire, entre les Suédois et les Samis. Avant cela, vous disiez, là, il y a quelques minutes, que vous étiez lancé dans... que l'aventure avait grandi. Et c'est vrai que quand on lit votre livre, ce qui est très frappant, c'est l'architecture du livre. Il y a 109 chapitres. Vous commencez par présenter, sur 2 pages, les 30 principaux personnages. Il y a une carte. Vous remerciez à la fin tous ceux qui vous ont aidé à mieux comprendre le XVIIe siècle tel qu'il était vécu au Portugal, à Amsterdam, en Suède. Donc c'est un livre très charpenté, très structuré. On se dit que ça a dû être très très long de l'écrire.
Je ne sais pas ce qu'on appelle long, en fait.
Moi, ça a fallu combien de temps ?
Je ne sais pas. Non, mais dans le sens où l'idée est née il y a 10 ans, donc c'est un projet qui a mûri. Il y a une lente maturation de ce livre depuis une dizaine d'années, même si j'ai fait j'ai fait 3 autres livres en attendant. Mais J'ai la Montagne Rouge, d'ailleurs mon précédent roman, était publié à l'automne 2016, donc j'ai commencé vraiment à travailler de façon active, on va dire, avec le cartographe en 2015, en travaillant beaucoup sur le synopsis, justement, mm-hmm. puisque je travaille beaucoup en amont. Je m'en lance pas. Oui, enfin, c'est les personnages, c'est beaucoup de recherches, parce qu'il y a eu pas mal de voyages. J'ai été dans tous les endroits où Isco a été. Il m'a mené par le bout du nez, comme ça. Je me suis laissé embarquer par ses aventures, par ses choix de vie, que ce soit le Portugal, parce qu'il fallait se former à la cartographie, donc je suis parti au Portugal, etc. Il voulait chasser la baleine, donc j'ai dû aller au Spitzberg, etc. Donc j'ai dû trouver preuve d'imagination pour aller sur ces coins-là. Mais en termes, donc il y a tout le travail en amont qui pour moi est toujours le plus long. C'est toujours le travail de recherche, d'élaboration de l'histoire, des personnages. Je travaille beaucoup, je passe beaucoup de temps avec ça parce que c'est une partie du travail que j'adore profondément, c'est-à-dire que quand ça tourne dans la tête, comment je me laisse embarquer par des lectures, par des lieux, et puis je laisse l'imagination voguer, j'essaie de relier entre eux des éléments historiques ou pas, pour voir comment ça peut fonctionner. Je dis, tiens, tel personnage dans telle situation, comment il pourrait réagir, qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport à mon histoire, par rapport à l'objectif que je me suis fixé, par rapport au récit, par rapport à ce que je veux raconter, le témoignage que je veux apporter à travers ce livre, par rapport aux autres livres, puisque ça s'inscrit, pour moi, le cartographe, c'est pas... Même s'il se lit de façon totalement indépendante, il n'y a pas besoin d'avoir lu les polars pour lire le cartographe. Mais pour moi, c'est lié. Parce qu'il y a ceux qui auront lu les polars auront une lecture augmentée, une lecture enrichie avec le cartographe, puisque c'est le préquel, c'est ce qu'il y a avant le dernier lapon, c'est ce qu'il y a avant la Montagne Rouge. On va retrouver dans le cartographe des éléments du dernier lapon, des éléments de la Montagne Rouge. Donc il faut, au moment de l'élaboration, quand vous parliez de structure, c'est vrai que moi, quand je faisais le synopsis, le plan de la Montagne Rouge, je faisais en parallèle le plan de celui-ci. Puisque pour moi, c'était une fois encore, c'est le même mm-hmm. récit, tout ça.
Alors, c'est vrai que le livre, il est passionnant au plan romanesque, mais il est aussi très intéressant au plan historique. Enfin, pour ma part, j'ai appris énormément. D'autant que le XVIIe siècle, alors ça, c'est une impression de lecteur, finalement, c'est pas nécessairement un siècle dont on parle beaucoup en littérature, entre la Renaissance et le siècle des Lumières qui suit, et la Révolution. C'est un siècle qui est peut-être moins bien connu. C'est l'époque des guerres de religion, des grandes expéditions, du commerce aussi qui se mondialise. Vous montrez... ça vous intéressait peut-être d'aller sur un terrain comme ça, historique, peut-être moins documenté ou moins...
Alors, il y avait de fait... Moi, j'avais envie, parce que j'ai en tête des grands romans historiques qui m'ont régalé, moi, en tant que lecteur. Et c'est vrai que c'est une matière à laquelle j'avais envie de me frotter en tant qu'auteur, pour me faire plaisir, tout simplement, parce que j'adore l'histoire, comme beaucoup de gens, je pense. Et je me suis dit, tiens, un roman historique... Il faut essayer. Mais j'ai été obligé d'aller là-bas, puisque dans le dernier lapon, la Montagne Rouge, j'ai des éléments qui me ramènent au XVIIe siècle. Donc, si je voulais être cohérent avec moi-même, je ne pouvais pas éviter ce projet-là. Et puis, surtout, voilà, je veux dire, pour moi, c'est le côté plaisir. C'est le. J'avais. À la différence, parce que la différence pour moi avec, par rapport aux polars, c'est que les polars, ce sont des histoires contemporaines. C'est de nos jours. Ça se passe. Des polars qui sont inspirés en grande partie de reportages que j'ai faits, de documentaires, de choses que j'ai vues, vécues, senties, inspirés en partie de personnages que j'ai côtoyés. Et là, non, le 17e, j'y étais pas. Isco, c'est un personnage, il fallait le faire vivre, ainsi que beaucoup de personnages de cette époque-là. Une fois encore, une époque, moi j'étais, je dois le confesser, relativement, voire tout à fait ignorant sur le 17e. Je m'en suis rendu compte en travaillant, alors que c'est une histoire, c'est une période qui est fascinante. Moi, je me suis vraiment laissé embarquer par cette époque qui, On est juste après les guerres de religion, mais c'est, tout ça est encore très vivant. C'est la guerre de 30 ans, donc c'est catholique contre protestant, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça, puisque, en l'occurrence, Français, Suédois sont alliés, donc c'est catholique et protestant contre d'autres catholiques. Mm-hmm. On est post les grandes découvertes des Portugais dans Il Navigateur de la forteresse, avec la forteresse de Sagres, puisqu'il y a le mythe de la forteresse de Sagres. Des grandes découvertes où Isco va tenter d'aller se former. Mais on est déjà, justement, on est passé dans la phase déjà un peu mûre, avec les débuts vraiment de la globalisation, de la mondialisation, avec la compagnie hollandaise des Indes orientales.
Très bien, l'influence d'Amsterdam.
Voilà, qui est la première multinationale par action au monde. Mmh. On passe vraiment avec les gens travaillent pour n'importe quel pays, peu importe, c'est celui qui paye qui l'emporte. Ça voyage beaucoup. Ça, les Hollandais, comme vous le disiez, la Hollande à l'époque, c'est les États-Unis d'aujourd'hui, la première puissance commerciale occidentale au monde, ce qu'on a du mal à imaginer vu d'aujourd'hui. Ce sont les Hollandais qui financent les guerres suédoises, qui investissent dans les mines suédoises. Donc ça bouge dans tous les sens.
Et vous décrivez, vous en parliez, la relation assez ambivalente de la France et de la Suède à l'époque.
Tout à fait. On parle même à l'époque, à l'époque de la guerre de 30 ans, on évoque même une fédération entre les deux pays. On évoque une fédération entre la France et la Suède. Donc, c'est vous dire si cette alliance va très loin. Richelieu compte beaucoup sur les Suédois pour continuer à maintenir un front contre les Habsbourg, pour affaiblir le... Voilà, donc il y a tout ce jeu-là. C'est les protestants. Donc c'est dans ce contexte-là que Isco va trouver sa place. C'est-à-dire que, puisqu'au début du livre, il est tout jeune, il a 13 ans, mais il fait le babysitter en quelque sorte de la princesse Christina, la future reine de Suède. Et Isco, il y a un sinistre personnage dans ce livre qui s'appelle Pierre de Lancre, qui est un personnage historique, qui était juge au Parlement de Bordeaux. Et qui était celui qui s'est rendu célèbre, qui était un fanatique, qui s'est rendu célèbre notamment par les procès en sorcellerie au Pays Basque. Il a écrit, il était très convaincu de ce qu'il faisait. J'en fais un personnage historique. Isco va tomber sous l'emprise de ce personnage. C'est Pierre de Lancre qui l'envoie se former à la cartographie et qui a une idée derrière la tête en envoyant Isco se former à la cartographie pour, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en début, pour en faire un espion. Parce que même si les Suédois sont des chers alliés, sont de très chers alliés, qui coûtent cher d'ailleurs, ce sont quand même des protestants, donc il faut quand même pas, il faut faire attention un peu. Donc Isco va être chargé, au nom des bonnes relations qu'il a nouées dans sa jeunesse avec des Suédois, d'aller les surveiller, d'aller les coller à la culotte un petit peu.
Mais c'est vrai que vous parlez de ce personnage, Christina, qui revient tout au long du... Ouais. Et c'est bel et bien la princesse et la future reine.
C'est un personnage fascinant. Je ne sais pas si vous... Il y a la reine Christina, c'est un des personnages les plus fascinants de l'histoire de Suède. Elle est toute gamine au début du livre. Et Isco et elle grandissent ensemble. En parallèle, Isco va être un peu un de ses percepteurs, va l'accompagner, être professeur de français et de lutte aussi, d'ailleurs, parce que Christina est... Aujourd'hui, on la qualifierait de garçon manqué. Elle est éduquée à la fois à la peinture, à tout ça, mais aussi aux langues, évidemment, mais à l'escrime. Enfin, elle est, voilà. Vraiment, c'était le souhait de son père de qu'elle soit éduquée comme ça. C'était une future reine guerrière aussi. Et Christina est un personnage très curieux. Elle est curieuse de tout. Elle est brillante, très intelligente. Elle parle je sais plus combien de langues et elle veut se nourrir de toutes les influences possibles et inimaginables. Et à la cour de Stockholm à l'époque, il y a les ambassadeurs évidemment des différents pays européens et ceux qu'elle préfère, ce sont les ambassadeurs des pays catholiques qui sont bien plus rigolo que les protestants suédois, les luthériens. Donc elle se nourrit beaucoup de leurs discussions et petit à petit, ça va déboucher sur, sur sa conversion au catholicisme qui va l'amener à abdiquer du trône de Suède. Donc vous imaginez le scandale à une époque où la Suède est luthérienne depuis assez peu de temps, en fait. Il y a Luther en poster là juste à côté de vous. Et la Suède est luthérienne depuis très peu de temps. Et donc les pasteurs luthériens, dont le pouvoir est encore fragile, craignent à l'époque toujours un retour du catholicisme. Donc vous imaginez la bombe que ça représente quand Christina se convertit au catholicisme. C'est le pays est en danger. Et Isco se retrouve au milieu de tout ça.
Et vous parliez de Stockholm. Vous expliquez, vous décrivez que la ville devient... le roi veut vraiment faire de Stockholm la capitale de son royaume, une capitale puissante. C'est la montée en puissance de Stockholm aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire tout se passe à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que, de fait, Stockholm obtient le statut vraiment de capitale dans ces années-là, à l'époque où Isco y est. Donc il est important d'asseoir le pouvoir commercial de Stockholm par rapport à d'autres cités suédoises. Et donc, il faut que c'est l'époque où Stockholm grandit, commence vraiment à grandir. À l'époque, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Stockholm, mais à l'époque, Stockholm est concentré sur ce qu'on appelle la vieille ville, la petite île qui est au milieu de Stockholm aujourd'hui, Gamlastan. C'est concentré là-dessus. Il y a les chantiers navals juste à côté, sur une autre île juste à côté, Skeppsholmen, là où le Vasa avait été construit. Mais c'est l'époque où il y a le pendant de Richelieu à Stockholm, Axel Oxenstierna, qui est l'équivalent de Richelieu en fait en Suède, et qui est sur la même idée, sur la même dynamique que Richelieu, c'est-à-dire moderniser l'État, le royaume de Suède. Donc on fait venir notamment, c'est à Stockholm qu'on va concentrer la bureaucratie, justement les administrateurs. On crée les corps d'administrateurs du royaume de Suède à cette époque-là aussi. On l'organise avec différents le corps du trésor, etc. Donc c'est à cette époque-là que Stockholm se construit vraiment, d'où l'importance aussi justement d'avoir et la cartographie rentre aussi dans cette optique-là, parce que par la cartographie on assoit les frontières, on assoit le pouvoir du souverain.
On structure.
Voilà. Et on montre aux yeux du monde qu'on a un royaume qui se porte bien. On a... Alors, les cartes ne sont pas des cartes qui ressemblent à celles d'aujourd'hui. Mais par le jeu des cartes, on porte vraiment le royaume au pied du souverain.
On a beaucoup parlé d'histoire, mais on peut aussi parler de l'histoire personnelle d'Isco, d'Echeverry, parce que le livre décrit son évolution humaine et peut-être une perte d'innocence.
Alors, comme vous disiez, au début du livre, il a 13 ans et le livre s'étale sur 65 ans. Donc, il a le temps de mûrir beaucoup, de voir beaucoup de choses. Il y a perte d'innocence dans le sens où Isco, en fait, il a très vite, il se retrouve embarqué dans une histoire qui lui échappe. Déjà par le choix que lui impose Pierre de Lancre, ce juge au Parlement de Bordeaux, qui l'oblige en fait à faire ce choix parce qu'il menace ses parents. Je peux pas m'étendre là-dessus sur la nature de la menace, mais il y a une menace qui pèse en permanence sur Isco. Et Isco va se retrouver un petit peu comme une espèce de Laurence d'Arabie, c'est-à-dire qu'il part au départ comme un colonisateur. Il va aider les Suédois par son art de la cartographie à ce qu'il va se retrouver beaucoup en Laponie. Il va participer à cette première expédition que j'ai évoquée tout à l'heure, mais il va y passer de très nombreuses années en Laponie, en fait. Il va se rendre indispensable, justement, par sa connaissance de la cartographie de cette région. Et cette perte d'innocence que vous évoquez, c'est qu'il se retrouve le bébé qui se sauve de la noyade au début du livre, la mère, Et ce qui va suivre avec... il y a un lien très fort qui va se créer avec cette mère et son enfant, et qui va porter Isco tout le long du livre.
Il devient plus politique aussi.
Il devient plus politique. J'évoquais le côté de Laurence d'Arabie dans le sens où c'est quelqu'un qui l'a évoqué. C'est pas moi, j'avais pas eu cette idée, mais c'est quelqu'un. Je trouve que le rapprochement était intéressant parce que Laurence d'Arabie au départ sert l'Empire britannique en Arabie et va se retrouver le héros des tribus arabes à la fin. Et c'est un petit peu dans une autre proportion, c'est ce qui va arriver aussi à Isco. Isco part aux côtés du royaume suède, des pasteurs luthériens, et il les accompagne dans leur colonisation de la Laponie. Et puis petit à petit, se rendant compte de ce qui se passe, il va essayer de basculer. Mais il est coincé. Donc c'est comment ensuite la perte de l'innocence et comment il va essayer de trouver son chemin au milieu de tout ça.
Et son regard sur les Samis change radicalement.
Tout à fait. Au début...
sur le bateau, là.
Tout à fait. Il y a de fait la première rencontre avec les Samis. Au départ, il ne sait pas ce que c'est, les Samis. Il les rencontre la première fois à Stockholm, déjà, quand il est tout jeune, tout gamin, à 13 ans. Il voit des espèces de sauvageons, là, qui attendent d'être embarqués sur un bateau. Ils sont à Stockholm, à ce moment-là. Et on va les envoyer en bateau sur une cour quelconque d'Europe, puisque à l'époque, les Lapons, avec leurs reines, sont des objets de cirque, des objets qu'on va exposer dans les cours européennes, parce qu'on trouve ça très exotique, déjà à l'époque. Hein, ça continuera pendant longtemps. Et voilà, il va se passer des choses avec ces gens-là. Mais à l'époque, au début, Isco, il est extrêmement craintif, il a peur de ces gens-là. Et quand il va commencer à partir en Laponie, à partir de cette première expédition que j'évoquais, et y retourner, il y va évidemment influencé par la vision qu'ont les Suédois des Lapons. C'est-à-dire, les Suédois, ils y vont la peur au ventre en Laponie. Ils y vont la peur au ventre parce que c'est terra incognita, on pénètre pas en Laponie, on n'y pénètre que l'hiver par les fleuves gelés, et on va quand on va là-bas, si on y va, c'est des terres de sortilèges, c'est des sorciers, des jeteurs de sorts, des gens qui envoient des boules de feu, qui communiquent avec le royaume des morts, dont les âmes marchent sous les montagnes. On n'y va pas de gaieté de cœur. Donc les paysans qui accompagnent les premières expéditions au départ jusqu'aux limites de la Laponie intérieure, ils sont terrorisés. Donc Isco, il part dans cet esprit-là aussi. Il est terrorisé par les récits, par ce qu'on lui raconte, par ce qu'il attend. Et petit à petit, par la connaissance des gens, comme toujours, il va découvrir une autre réalité, et une réalité qui va faire écho à ce qu'il va découvrir petit à petit de la réalité qui est celle de sa famille et de ses clans au Pays Basque. Parce qu'en fait, les deux récits se font écho.
Alors, vous parliez de la Laponie. Peut-être on peut préciser, la Laponie, ça désigne quel territoire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est un territoire, vous imaginez un croissant, une forme de croissant qui part du milieu de la Suède et qui va jusqu'à la péninsule de Kola, côté russe. C'est 400 000 km², c'est les 4/5 de la France. Mm-hmm. Donc c'est une région immense qui couvre presque la moitié de la Suède, qui couvre tout le nord de la Norvège, qui couvre le nord de la Finlande et donc la péninsule de Kola, côté russe.
Et il y a combien de personnes à peu près, les Samis? Ça représente quelle population?
Alors les Samis, bon, on est sur les côtes mal taillées, entre 80 et 100 000 personnes à peu près, mais la plupart, beaucoup, vivent à Stockholm, à Oslo. On a l'habitude de dire en plaisantant que le plus gros village Sami en Suède, c'est Stockholm, parce qu'il y a beaucoup de Samis qui habitent là-bas. Pareil, dans les capitales, ils habitent dans les villes. Il n'y a que 10% des Samis aujourd'hui qui travaillent, qui sont liés à l'élevage de rennes.
D'accord. Alors, vous décrivez la conversion au christianisme, cette superstition qui, la sorcellerie qui entoure la réputation des Samis à l'époque. Il reste aujourd'hui dans la Suède contemporaine des lambeaux comme ça de préjugés ou de...
Oui, alors oui, il y a toujours de la discrimination vis-à-vis des Samis aujourd'hui dans les pays nordiques, ça c'est évident. C'est d'ailleurs des problèmes que j'évoque dans mes polars, pour le coup. Il y a toujours des conflits. La Laponie reste une terre de conflits aujourd'hui encore, pour des histoires de droit à la terre, avec des conflits entre éleveurs de rennes d'un côté et puis différentes entreprises, sociétés, industries, compagnies minières, compagnies qui vont faire, qui ont des projets de parcs d'éoliennes, d'aménagement touristique, enfin de barrages, de toutes sortes de choses, de lignes électriques, autant de projets qui viennent se heurter à l'utilisation des pâturages par les éleveurs de rennes dont le périmètre se réduit de plus en plus. Mmh. Et donc, comme leur périmètre se réduit de plus en plus, parce que souvent ils perdent les consultations, et après on vient leur reprocher d'avoir trop de rennes, alors qu'en fait on leur réduit le pâturage, donc il n'y a plus assez à manger pour le nombre de rennes. C'est un peu le diable qui se mord la queue, donc ils sont souvent perdants.
Merci beaucoup Olivier Truc, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu ce soir.